VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 10 juin 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Les titres pour commencer, l'ancien président américain Donald Trump placé au centre d'un complot visant à le maintenir au pouvoir, selon une commission parlementaire. Elle a commencé hier soir ses auditions télévisées sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Au Nigeria, le gouvernement soupçonne le groupe djihadiste ISWAP d'être derrière l'attaque dimanche qui a fait 40 morts, dont des enfants, dans une église du sud-ouest du pays. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, minimise comme une maladresse l'annonce fixant l'échéance d'un retour des civils au pouvoir au Mali. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa suspend la médiatrice de la République au lendemain de l'annonce d'une enquête sur lui. En Ukraine, combats de rue et bombardements russes à Severodonetsk, ville clé du Donbass. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Une tentative de coup d'État, c'est en ces termes que Benny Thompson, le président de la commission dite du 6 janvier, a qualifié l'assaut du Capitole lors de la certification des résultats de la présidentielle de 2020. Cette commission parlementaire américaine a lancé hier soir une série d'auditions télévisées sur ces événements dont les images ont fait le tour du monde. Le point avec Michel Joseph.
January 6 was the culmination of an attempted coup.
Le 6 janvier a été la culmination d'une tentative de coup d'État, a affirmé Benny Thompson. Les mots de cet élu démocrate du Mississippi ont été sans équivoque. Pour lui, l'ancien président Donald Trump était au centre de ce complot, selon ses propres termes. Liz Cheney, une des rares élues républicaines ayant accepté de siéger dans cette commission, lui a emboîté le pas.
President Trump summoned the mob, assembled the mob, and lit the flame of this attack.
Pour elle aussi, le président Trump a convoqué la foule, rassemblé la foule et allumé la mèche de cette attaque. Pour appuyer ses conclusions, la commission du 6 janvier a diffusé des images inédites des violences de cette journée lors de laquelle des milliers de partisans de M. Trump s'étaient réunis à Washington pour dénoncer le résultat de l'élection de 2020, qualifiant de fraude la victoire de Joe Biden. Ces vidéos montrent des foules attaquant le siège du Congrès, appelant à pendre le vice-président Mike Pence et un manifestant lisant des tweets de Donald Trump au mégaphone. Les images de cette première audience ont été retransmises en direct par de nombreuses chaînes d'information. Depuis près d'un an, ce groupe d'élus, 7 démocrates et 2 républicains, a entendu plus de 1000 témoins, dont 2 enfants de l'ancien président, et épluché 140 000 documents.
Parmi ces témoins, l'ex-ministre de la Justice, Bill Barr, qui affirme avoir dit en termes crus à son patron Trump que ses allégations de fraude n'étaient pas étayées par les faits, et aussi Ivanka Trump, la fille et ancienne conseillère de l'ex-président, qui dit avoir accepté le rejet de telles allégations par M. Barr.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité au Nigeria, le gouvernement soupçonne le groupe djihadiste ISWAP, affilié à l'organisation État islamique, d'être derrière l'attaque menée dimanche dernier contre une église dans le sud-ouest du pays. Un nouveau bilan fait état de 40 morts, dont des enfants. Les précisions de Jacques Aristide.
Le ministre nigérian de l'Intérieur indique que les auteurs de cette tragique et odieuse attaque ont pu être localisés. Selon les informations dont nous disposons, cela pourrait être ISWAP. Les animaux d'ISWAP, en soif d'attention et de reconnaissance, sont soupçonnés d'avoir lancé cette attaque, ajoute Raouf Arek Bessola, sans donner davantage de détails. L'attaque a été perpétrée pendant l'office du matin à l'église catholique Saint-Francis dans la ville d'Owo, qui fait partie d'une région du Nigeria habituellement épargnée par les tueries des bandes criminelles et des groupes djihadistes comme l'ISWAP et Boko Haram. D'après les premiers éléments de l'enquête, les assaillants, dont certains déguisés en fidèles et munis d'explosifs, ont attaqué les paroissiens, tandis que d'autres, positionnés autour de l'église, tiraient sur l'édifice depuis différentes directions. Des balles de Kalachnikov et des fragments d'engins explosifs improvisés ont été retrouvés sur le lieu du massacre.
Le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, a minimisé hier comme une maladresse le fait que la junte malienne n'ait pas attendu la fin des négociations avec ses voisins ouest-africains de la CDAO pour fixer l'échéance d'un retour des civils au pouvoir. Selon un décret signé lundi par le colonel Assimi Goïta, chef de la junte, les militaires gouverneraient jusqu'en mars 2024 avant de rendre le pouvoir aux civils à l'issue de cette période dite de transition. Concernant le Sénégal même, le président Sall a fermé la porte hier à un repêchage de la liste nationale de l'opposition pour les législatives, malgré les menaces provoquées par ses adversaires contre la tenue du scrutin le 31 juillet. Si vous faites une liste qui ne respecte pas ce que dit la loi, elle est éliminée, a dit M. Sall dans un entretien avec des médias français, soulignant que son propre camp, en ce qui le concerne, s'est plié à l'invalidation de l'une de ces listes par le Conseil constitutionnel. Le président sud-africain a suspendu hier la médiatrice de la République nommée à la tête du principal organe chargé de la lutte contre la corruption par l'ancien président Jacob Zuma. Le point avec Lionel Gahima.
Le président Cyril Ramaphosa a décidé de suspendre Busisiwe Mkebane du poste de médiatrice de la République à compter du 9 juin 2022 et jusqu'à ce que le Parlement se prononce, précise le communiqué de la présidence. La veille, la médiatrice a annoncé l'ouverture d'une enquête visant le président sud-africain. Monsieur Ramaphosa, 69 ans, est accusé d'avoir dissimulé à la police et au fisc un cambriolage datant de 2020 dans une de ses propriétés. L'équivalent de 3,8 millions d'euros en espèces ont été trouvés cachés dans un mobilier. L'ex-chef du renseignement, Arthur Fraser, affirme dans une plainte que le président payait des malfaiteurs pour obtenir leur silence. Hier, le président sud-africain a dénoncé des sales coups et intimidations pendant une séance au Parlement. Les députés de la gauche radicale l'ont empêché pendant plus d'une heure de prendre la parole. Plusieurs d'entre eux ont été expulsés. L'ANC doit décider d'ici décembre de présenter ou non Cyril Ramaphosa comme candidat pour un second mandat à la présidentielle de 2024.
Pour revenir et parler de l'Union africaine, le président Macky Sall a appelé jeudi au déminage du port ukrainien d'Odessa pour permettre les exportations de céréales. Il dit avoir reçu l'assurance de son homologue Vladimir Poutine que la Russie n'attaquerait pas. Il a parlé des risques de famine et de déstabilisation pour l'Afrique, très dépendante des importations de céréales ukrainiennes et russes, mais aussi de fertilisants essentiel pour son agriculture peu productive. Monsieur Sall doit rencontrer ce vendredi Emmanuel Macron en France. Entre la flambée des prix des céréales et des engrais, la guerre en Ukraine a contribué à aggraver les crises alimentaires, selon la FAO, avec une hausse dramatique de la facture pour les pays importateurs qui vont payer plus pour avoir moins. Nani Talani.
Les dépenses mondiales d'importation alimentaire devraient enregistrer cette année une hausse allant jusqu'à 1 800 milliards de dollars par rapport à 2021, dont 49 milliards du seul fait de la progression des prix, estime la FAO. Cette année, la production mondiale des principales espèces céréalières devrait reculer pour la première fois en 4 ans. La production globale de blé devrait ainsi légèrement reculer à 771 millions de tonnes selon la FAO, avec des récoltes plus incertaines du fait de la sécheresse comme en Inde et du fait de la guerre en Ukraine où la production va baisser d'au moins 40%. Les prix ont déjà bondi de près de 40% depuis l'invasion de l'Ukraine. D'après la FAO, plus de 30 pays importateurs de blé dépendent de Kiev et de Moscou pour au moins 30% de leurs importations. Les deux superpuissances agricoles assurent 30% du commerce mondial de blé et 78% des exportations d'huile de tournesol. La FAO s'inquiète aussi des baisses de rendement pour les prochaines récoltes si certains agriculteurs décidaient de réduire leurs applications d'engrais dont les prix ont triplé en un an et dont la Russie est un des premiers exportateurs mondiaux.
Abdourahman Dia, vous aurez rectifié de vous-même. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que ses soldats résistaient à Severodonetsk où d'intenses combats de Russes poursuivaient contre les troupes russes. La ville stratégique de Don dépend le contrôle de l'entière région du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Par ailleurs, les autorités séparatistes pro-russes dans l'est ukrainien ont annoncé hier la condamnation à mort de deux Britanniques et d'un Marocain qu'ils qualifient de mercenaires aux côtés des Ukrainiens. La Minute Éco, Rosine Mounet Zéro.
Le FMI va réviser à la baisse ses prévisions de croissance mondiale cette année en raison de la guerre en Ukraine, l'inflation élevée et le ralentissement en Chine. Le FMI avait déjà abaissé ses projections de croissance mondiale à 3,6%. L'institution doit publier en juillet ses prévisions actualisées. La Banque africaine de développement a autorisé la création d'une académie virtuelle de gestion des finances publiques pour l'Afrique. Les bénéficiaires des formations couvrent l'ensemble des fonctions publiques, dont les responsables techniques et politiques, qui ont le pouvoir d'influer et de changer les systèmes de gestion des finances publiques des pays africains. Au Nigeria, les salles de cinéma ont généré 1,6 million de dollars au mois de mai, soit 14% de plus que pour le mois précédent. Les autorités locales participent depuis plusieurs mois à la diffusion de chiffres sur les entrées en salle. Au fil des derniers mois, le rapport montre un intérêt croissant pour les films nigérians qui, il y a quelques années, étaient massivement piratés.
Merci Rosine. Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite et fin hier des derniers matchs de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023.
Oui, le Cameroun s'est imposé 1-0 devant le Burundi, 3-1 pour le Mali en déplacement face au Soudan du Sud. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a été tenu en échec par le Lesotho, 0-0. Victoire à l'arraché de la Guinée, 1-0 devant le Malawi. Défaite surprise, 2-0 de l'Égypte face à l'Éthiopie. Le Nigeria a battu la Sierra Leone, 2-1. La Guinée-Bissau a dominé Sao Tomé et Principe, 5-1. Les deux prochaines journées se disputeront en septembre prochain.
Rabah Majer condamné à 6 mois de prison ferme.
L'ex-attaquant vedette de l'équipe de football d'Algérie et du FC Porto a été condamné à Alger à 6 mois de prison ferme, a confirmé Rabah Majer, qui a ajouté qu'il va faire appel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai rien à voir avec cette affaire, ni de près, ni de loin. Je suis innocent, a déclaré l'ancien sélectionneur d'Algérie. Rabah Majer, 63 ans, a été condamné pour de fausses déclarations comptables. De même qu'un co-accusé, les deux co-accusés devront aussi payer une amende de 3 200 € à la partie plaignante, l'Agence nationale d'édition et de publicité, Rabah Majer, qui possédait deux journaux Al-Balak et Al-Balak Iriadi, aurait continué à encaisser des chèques de publicité publique de l'ANEP un an après la fermeture des deux publications. L'ancienne star refute ses accusations.
Basketball, le match numéro 4 de la finale NBA se joue ce soir.
Ça se joue de nouveau au TD Garden, l'antre des Celtics. Boston mène 2-1 face aux Golden State Warriors dans cette finale. Les fans survoltés des Celtics pourront encore voir leur deuxième match d'une finale joué au TD Garden en 12 ans et 14 ans après y avoir célébré leur 17e titre.
LeBron James veut être propriétaire d'une équipe à Las Vegas.
Je vais posséder une équipe, je vais acheter une équipe, c'est sûr. Je veux une équipe à Vegas, a déclaré la superstar des Los Angeles Lakers, qui vient à peine de devenir, selon Forbes, le premier basketteur en activité milliardaire. Las Vegas est souvent une ville évoquée pour voir s'y établir une franchise NBA à l'avenir, à l'instar de Seattle. Mais la semaine passée, le patron de la Ligue, Adam Silver, a écarté toute expansion à 32 équipes dans l'immédiat. Quadruple champion NBA, LeBron James est copropriétaire du Fenway Sports Group, qui possède la franchise de baseball des Boston Red Sox, celle de hockey sur glace des Pittsburgh Penguins, et détient des actions dans le club de foot de Liverpool.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'arrestation des frères Gupta à Dubaï a fait l'effet d'un séisme en Afrique du Sud. Les Gupta sont les principaux suspects dans le vaste scandale de corruption qui a abouti à la chute de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Pour mieux comprendre les enjeux de cette arrestation, Claire Morin-Gibourg a joint le coordonnateur de l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe de l'IFRI, Thierry Vircoulon.
Ça risque de prendre du temps parce que évidemment les avocats des Gupta vont contre-attaquer, faire que ça soit jugé, etc. Donc ça va probablement prendre du temps. Par contre, ce qui est évident, c'est que les autorités sud-africaines, là aussi, ont depuis longtemps demandé leur extradition, mais fait pression sur les autorités de Dubaï pour ça. Et donc c'est une bataille qui est engagée depuis longtemps, leur extradition, qui n'est pas terminée.
Est-ce que pour vous, c'est le signe que la lutte contre la corruption en Afrique du Sud est désormais réelle?
Disons que c'est le signe que la lutte contre Jacob Zuma et ses associés est une réalité. Ça, c'est vrai. La lutte contre la corruption peut-être pas trop exagérée. Récemment, l'ANC fait beaucoup de pression pour la modification d'une loi qui les dérange, donc il ne faut pas non plus exagérer. Par contre, les Gupta ayant été très liés à Jacob Zuma, et on voit bien qu'il y a, là, il y a une vraie cible.
L'arrestation des frères Gupta est une victoire pour le président Ramaphosa, qui a juré de lutter contre la corruption dès le début de son mandat.
Oui, bien sûr, ça serait en effet une victoire politique et judiciaire. Ça permettrait en effet d'affaiblir davantage la faction Jacob Zuma dans l'ANC, qui reste quand même assez forte. Et puis, ça serait évidemment un signal que la lutte contre la corruption est une réalité en Afrique du Sud.
Moi, j'ai quand même eu l'impression que ça avait étonné énormément de monde. Que pensez-vous que...
Oui, parce que ça faisait longtemps que les autorités sud-africaines demandaient aux autorités de Dubaï d'arrêter les Gupta. Donc c'est là qu'il y a une surprise. C'est, comme je le disais, c'est une des demandes qui se sont réitérées depuis pas mal de temps. Et on voit que maintenant, les autorités de Dubaï ont dit oui. Bon, après, on doit voir en effet qu'est-ce qui va se passer en justice pour l'extradition. Mais la surprise, elle vient du fait que les autorités de Dubaï aient finalement accédé aux demandes répétées des autorités sud-africaines.
Alors, de façon un peu étonnante, il y a cette affaire avec le président Ramaphosa et ce cambriolage raté. Est-ce que vous pensez que cette affaire, en fait, va le desservir ?
Il y a des problèmes de corruption sur les bras à l'ANC. C'est un problème systémique qui n'épargne personne, si je puis dire. Et l'ensemble du parti est malheureusement extrêmement corrompu. Donc, je ne sais pas si ça va le desservir, mais en tout cas, dans les luttes de factions au sein de l'ANC, ça remet un peu les compteurs à égalité.
Thierry Vircoulon, coordonnateur de l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe de l'Institut français des relations internationales. Au Togo, les sanctions économiques imposées au pays dans les années 90 et 2000 ont rendu le réseau routier obsolète et le parc automobile vieillissant. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement fait des efforts pour renverser la tendance. Un projet de professionnalisation du secteur du transport routier est mis en œuvre depuis 2019. De Lomé, notre correspondant Kossi Ousou.
Au Togo, le secteur du transport routier assure plus de 90% de déplacements de personnes et de biens. Sa contribution à la croissance économique s'évalue à 4%. Selon Michel Comlan Tendanon, secrétaire général du ministère des Transports, le Togo peut en tirer davantage de profits, mais il est confronté à des faiblesses.
Il s'agit notamment du cadre juridique inadapté, de la non-professionnalisation des opérateurs de transport, de la vétusté du parc automobile, de l'insécurité routière, du non-respect de la réglementation en vigueur par les acteurs, de l'absence d'un cadre et d'opportunités pour le renforcement des capacités des transporteurs et des conducteurs, de la persistance des pratiques anormales sur les corridors, etc.
Depuis 2019, les expertises de l'Union internationale des transporteurs routiers ont été sollicitées pour remédier à ces manquements. Des résultats tangibles sont d'ores et déjà observés dans le secteur, nous dit Patrick Philippe de l'IRU.
Une loi et ses nombreux arrêtés. De nombreux guides pratiques, 12 au total, 234 modules de formation et plus de 2000 questions dans les banques de données, 5500 heures de formation stagiaire pour les formations de formateurs, 22 formateurs certifiés, une fêtière. Ce sont seulement certaines des réalisations pour lesquelles IRU a été engagé et mobilisé dans ce projet.
L'une des réussites de ce vaste chantier de modernisation et de professionnalisation du secteur est la mise en place de la fêtière des organisations patronales des transporteurs. Son président s'en réjouit. Abdou Ibrahima.
Chaque jour que Dieu fait, il y a toujours des syndicats qui naissent, mais qui ne contribuent pas assez à la modernisation du secteur. Aujourd'hui, toutes les organisations se sont regroupées dans cette fêtière, puisque la fêtière est composée d'organisations professionnelles. Aujourd'hui, la fêtière va porter toutes les doléances et va faire un plaidoyer vis-à-vis de l'État, de tous les chantiers que toutes ces organisations professionnelles ont pour moderniser le secteur. Regroupés sous la bannière de la fêtière, nous constituons un poids et nous pensons que les choses, les lignes peuvent bouger et les choses peuvent avancer dans le bon sens.
À la direction des transports routiers et ferroviaires, on indique que les réformes initiées pour la professionnalisation du secteur serviront de support pour le développement du commerce et constituent la trame structurante de toutes les politiques de croissance et réduction de la pauvreté. Kossi Woussou, Lomé, pour VOA Afrique.
L'équipe nationale du Sénégal a terminé les deux premières journées des éliminatoires de la CAN avec des victoires convaincantes face au Bénin 3-1 et au Rwanda 1-0. 4 buts qui portent l'empreinte de Sadio Mané, devenu meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise. Grâce à cette performance, alors où se situe la star des Lions dans l'histoire des meilleurs joueurs du Sénégal? Au micro de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay, d'anciens internationaux sénégalais répondent.
Je crois qu'aujourd'hui, Sadio est en train de marquer son époque, de marquer son histoire et d'écrire son propre histoire.
Souvent comparé à Sadio Mané, le double ballon d'or africain El Hadj Diouf estime que son successeur dans l'attaque des Lions est parmi les top joueurs mondiaux. Pour lui, la dualité que certains essaient d'installer entre lui et la star des Lions n'a pas sa raison d'être.
Franchement, je vais vous dire une chose, ça c'est un faux débat. Et le plus important aujourd'hui, nous, c'est pas aujourd'hui El Hadj Diouf et Sadio Mané, c'est Sadio Mané et Salah. Aujourd'hui, c'est d'autres générations, d'autres personnes qui jouent. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je souhaite à Sadio, c'est d'être le meilleur joueur du monde.
Les anciens internationaux sont également d'avis que Sadio Mané est devenu une icône de l'équipe nationale et du football sénégalais grâce à son travail et sa détermination. Cheikh Sidiba, ancien défenseur des Lions de la Teranga.
Il connaît sa valeur, il connaît le poids qu'il représente dans cette équipe nationale du Sénégal. Je parle même pas en club avec Liverpool, mais je pense qu'en équipe nationale, il a franchi un palier. Aujourd'hui, quand on voit Sadio, l'envie, la volonté qu'il a quand il joue avec l'équipe nationale du Sénégal, quand on le voit à l'échauffement avant un match, on voit que c'est un autre Sadio. On voit que il est omnibulé par le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Et ça, c'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour le peuple sénégalais et c'est une bonne chose aussi pour lui.
Pour les observateurs de l'équipe nationale, la principale force de Sadio Mané est la régularité dans ses bonnes performances. Le journaliste sportif Cheikh Tidiane Diagne juge l'attaquant des Lions bien au-dessus de tous.
On parlait de El Hadj Diouf, c'est vrai qu'il a eu à faire de très belles choses avec cette équipe du Sénégal, mais bon, avec l'avènement de Sadio Mané, on a senti qu'en fait, on a vu un jeu beaucoup plus constant en équipe nationale, en club qui est parvenu à gagner, disons, des trophées. que ses prédécesseurs n'ont pas gagné. Je veux parler de la Ligue des Champions. Je veux aussi parler, disons, de trophées en Première Ligue, entre autres. Je veux parler de la Carabao Cup, entre autres. Voilà, donc, cerise sur le gâteau, comme on dit, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, tout cela confondu faisait que, véritablement, tout le monde savait que Sadio Mané est le meilleur joueur de l'équipe du Sénégal, toute génération confondue. Et là, il a confirmé la dernière fois avec ce but qui lui permet aussi d'être le meilleur buteur dans l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal.
Meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale sénégalaise avec 33 buts, Sadio Mané fait désormais l'unanimité auprès des anciens internationaux et des observateurs de l'équipe du Sénégal. Pour eux, le natif de Bambali n'a pas encore fini d'écrire les plus belles pages du football sénégalais. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a prévu de rencontrer son homologue chinois lors d'une conférence sur la défense qui se tient à partir d'aujourd'hui à Singapour. Il s'agit d'une rare réunion entre de hauts responsables américains et chinois, les deux pays n'étant pas d'accord sur nombre de sujets, comme le rapporte Bill Gallo de Séoul, en Corée du Sud. Le récit et de Jacques Aristide.
La dernière montée des tensions américano-chinoises remonte à la fin du mois dernier, quand des avions militaires chinois et russes ont été aperçus près de l'espace aérien des alliés asiatiques des États-Unis, alors que le président Joe Biden effectuait une tournée en Asie. La guerre menée par la Russie en Ukraine n'a fait qu'approfondir les frictions entre Washington et Pékin. Bien que la Chine n'ait pas ouvertement soutenu cette guerre, elle a promis des liens plus étroits avec les Ukrainiens, ce qui inquiète les Américains. Joseph Bosco, un ancien responsable du Pentagone.
Elle s'identifie à un pays très agressif et les États-Unis craignent que la Chine aborde le cas de Taïwan de la même manière, avoir recours à la force pour atteindre ses objectifs.
Pour la Chine, Taïwan fait partie de son territoire. Elle menace de le prendre par la force. Le président Biden a promis que les États-Unis défendraient Taïwan au cas où la Chine l'envahissait, ce qui fait craindre un conflit entre superpuissances. À Singapour, Taïwan est l'un des sujets à l'agenda du tête-à-tête prévu entre Lloyd Austin, le patron du Pentagone, et le ministre chinois de la Défense. Des analystes disent toutefois ne pas s'attendre à des percées majeures. Lim Tai-wei est chercheur à l'Université nationale de Singapour.
Taïwan est peut-être la question qui crée la plus grande divergence entre les deux superpuissances.
De nombreux autres pays craignent d'être entraînés dans un conflit majeur.
La plupart des habitants de la région préfèrent avoir des étapes progressives pour baisser la tension, sachant qu'il n'est pas possible de résoudre un problème aussi compliqué. Les parties concernées peuvent du moins trouver des points communs pour créer un climat beaucoup plus propice aux discussions.
Il existe tout de même des domaines de coopération possibles entre les États-Unis et la Chine, notamment le changement climatique et la question nucléaire nord-coréenne.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibourg avec vous, débat autour de la dot au Gabon. Interdite en 1963, cette loi n'a jamais été appliquée. L'ancien procureur, Madame Sidonie Flore Houé, souhaite que le Parlement mette fin à cette ambiguïté, autorise la dot et reconnaisse le mariage coutumier. Par contre, la Fédération gabonaise des syndicats de la culture veut que la dot soit supprimée, car c'est un coût trop important pour les familles. Quelle est la situation dans votre pays? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur notre page Facebook. Vous pouvez également enregistrer votre message sur notre numéro WhatsApp, plus 1 202 297 60 89.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia. À la mise en onde, Michel Joseph, et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.